Bruxelles de Sarah Proud, qui est professeure à McGill et aussi directrice associée responsable de la recherche et des relations internationales à McGill. Ça fait depuis longtemps qu'elle entretient des relations étroites avec le CREOM, notamment par le biais du groupe de recherche sur la normativité interuniversitaire, ça fait le UGLAN-Grain. Et ses intérêts de recherche recoupent parfaitement les intérêts de recherche de l'axe d'éthique fondamentale. Elle a écrit de nombreux articles, notamment sur la partialité en éthique, l'éthique et la partialité, et aussi sur d'autres sujets. Je ne vais pas faire la liste complète, mais je vais mentionner quand même ses travaux sur la faiblesse de la volonté et surtout la procrastination, un sujet fascinant.
Merci Christine. Si Christine vient de dire que je suis maintenant vice-rectrice adjointe, vous comprendrez que je n'ai pas eu le temps d'écrire un discours pour vous livrer, même pas un discours très, très court. 12 minutes 5 nous ont été accordés chacun. Mais en tout cas, je trouve plus approprié à cet événement quand même festif. Vraiment, juste faire quelques propos de façon plus informelle, qui a pour but de soulever ou bien de souligner un sujet que je crois fondamental en éthique, d'abord. Deuxièmement, important pour l'avenir de l'éthique. Et troisièmement, en plus, c'est un sujet sur lequel notre chère directrice Christine et notre tout aussi cher conférencier Ruven ont fait d'importantes contributions. Et c'est le sujet des concepts de l'éthique. Donc, c'est une question, je trouve, qui est très importante, très débattue actuellement. Il n'y a pas de consensus actuellement sur les bons concepts à utiliser en éthique. En quels termes devrions-nous penser quand on pense en éthique? Ce n'est pas évident. Et je crois que le consensus qui peut-être existait depuis un bon moment, en 20e siècle, vraiment est en train de se déchirer, de disparaître, et un nouveau consensus n'est pas encore en place. Donc, je vais juste vous rappeler l'amplitude des concepts qui nous sont disponibles pour penser en éthique. Il y en a plein. Donc, le choix, c'est pas évident seulement de ce côté-ci que nous avons tant de choix. Nous avons vraiment un embarras de choix. Si on commence par la distinction qu'ont faite Christine et Ruven dans leur ouvrage. On a d'un côté les concepts évaluatifs, tels que le bien, donc je vais retourner à ce sujet important dans un instant, et d'autre côté, on a les concepts déontiques, donc des concepts comme ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est obligatoire, ce qu'il faut faire, le concept du devoir. Donc, vous voyez qu'il y a comme toute une catégorie de concepts là qui ont quelque chose en commun. Et les travaux de Christine et de Ruven là-dessus ont été vraiment très importants en soulignant les multiples points communs entre ces concepts déontiques et les multiples points de distinction entre ce genre de concept et les concepts évaluatifs. Donc, je ne vais pas répéter les résultats qu'ont obtenus Christine et Ruven, mais je crois qu'ils ont raison que ces deux catégories de concepts ont des profils très différents, effectivement. Et c'est un peu ça qui a, je crois, mis en place dans la littérature l'idée qu'il fallait faire comme un choix entre les deux, parce que un aspect frappant de ce débat sur les concepts de l'éthique, c'est que chaque théoriste a ses concepts préférés. Il n'y a pas, je crois, il n'y a pas de théoriste qui approuve tous les concepts, qui recommande fortement tous les concepts différents en éthique. Chacun a ses concepts préconisés et d'autres concepts dont ils se méfient. Et en particulier, il y a des gens qui préconisent plutôt les concepts déontiques, même vus de façon autonome, c'est-à-dire indépendant des concepts évaluatifs. Et il y a beaucoup d'autres théoristes qui préconisent les concepts évaluatifs en ce sens que les concepts déontiques devraient être définis en termes de concepts évaluatifs. Donc, juste pour récapituler une histoire bien connue, si on commence par Principia Ethica de George Edward Moore en 1903, on voit là vraiment presque le fondement du traitement de ces questions pour le 20e siècle. Quand on voit que, selon Moore, le concept fondamental en éthique, c'est le concept du bien. Et c'est un bien très spécial, c'est un bien absolu ou impersonnel, en ce sens que Moore croyait que le concept « good for », j'ai consulté ma fille qui m'a confirmé qu'il n'y a vraiment pas d'équivalent en français pour « good for », donc je traduis là, dans la langue de Shakespeare, je reviens dans la langue de Shakespeare en citant Moore. Le concept « good for », par exemple, selon Moore, c'était incohérent. Il n'existait pas vraiment un concept « good for ». Il y avait dans le domaine du bien, le bien point final, le bien tout court. Il n'y avait pas de bien « good for ». Et comme vous le savez bien, ce concept du bien absolu ou impersonnel jouait un rôle fondamental dans la théorie éthique de Moore, le conséquentialisme. Donc, il nous permet d'utiliser les concepts déontiques, mais un concept déontique comme le concept de ce qu'il est moralement correct de faire, c'est ma traduction de « morally right ». C'est un autre terme qui résiste traduction en français, je trouve, mais je crois que moralement correct, c'est pas mauvais. Ce qui est moralement correct, ce qu'il faut faire, nos devoirs, par exemple, tout ça se réduit à la question de quel acte va produire le plus de bien, bien absolu, bien personnel. Donc, pour longtemps, je crois que cette perspective régnait, qu'il fallait définir les concepts déontiques en termes d'évaluatifs et spécifiquement en termes de cette notion de bien absolu ou impersonnel, avec les travaux notamment de John Rawls qui ont vraiment réhabilité en quelque sorte une perspective plus déontologiste en éthique. Les gens commençaient à questionner cette priorité ou suprématie des concepts évaluatifs et notamment ce concept de bien. Dans les années plus récentes, on a vu d'autres dimensions de ce débat s'introduire. Notamment, on a vu les critiques de Judith Jarvis Thompson vraiment qui, selon moi, proviennent d'une critique antérieure de Philippa Foot dans ce même sens. On a vu la critique de Judith Jarvis Thompson selon laquelle vraiment c'est la notion de ce bien absolu ou impersonnel qui est incohérent ou qui n'existe pas véritablement. Donc, ce n'est pas juste une question enlever ce bien absolu du trône de l'éthique, c'est vraiment d'évacuer totalement cette notion parce qu'elle n'est pas bien formée. Okay? Ce qui, évidemment, ferait beaucoup de mal au projet conséquentialiste, si Thompson avait raison. On a, d'un autre côté, les éthiciens de la vertu qui plaidoient en faveur des concepts arrêtistes, des concepts comme l'excellent, l'admirable, le déplorable. Donc, on a notamment Michael Sloat qui, dans son plaidoyer pour l'éthique de la vertu, nous avisait qu'on se trompe en se fiant aux concepts déontiques, des concepts comme moralement correct. Il vaut mieux utiliser les concepts arrêtistes comme l'excellent, l'admirable, le déplorable, etc. On a maintenant beaucoup d'attention sur les concepts évaluatifs épais. Ce sont les concepts que je crois que Christine affectionne tout particulièrement.
Vous donnez beaucoup à la maison.
Ça fait des animaux de compagnie très, très agréables, très variés. Mais ces concepts-là, puisqu'ils sont tellement variés, ont le défaut de fournir moins évidemment une base pour une théorie éthique unie. C'est-à-dire, si on a une seule notion du bien absolu, c'est facile de définir d'autres notions en ces termes. Mais avec tous les concepts épais qui existent, ce serait difficile de produire une perspective unie sur la question de ce qu'il faut faire, par exemple. Donc, moi, j'aime bien les concepts épais, mais c'est peut-être moins utile pour l'objectif de construire une théorie morale. Un cas que j'aimerais mentionner, parce que c'est un ouvrage sur lequel j'écris quelque chose actuellement, c'est le cas très intéressant de l'ouvrage récent de Richard Kraut, qui essaie de remettre le concept de « good for » qui, selon lui, c'est plutôt le concept du bénéfique. Donc là, on peut dire que c'est vraiment le concept du bénéfique dont il parle. C'est pas forcément la même idée qu'avait Moore quand il disait que « good for » n'existait pas. Mais le bénéfique, selon Kraut, ça existe, c'est cohérent. Et en fait, c'est le concept qu'il faudrait utiliser en éthique. On ne devrait pas utiliser le concept du bien absolu, non seulement parce que... C'est pas très bien défini, ça n'a pas de sens clair, mais parce que, selon Kraut, ça nous amène dans la mauvaise direction en éthique. Il vaut mieux se contenir à utiliser le concept du bénéfique et du good for. Donc, c'est un peu l'inverse de la perspective de Moore. C'est pas parce que, et ça c'est une autre chose qui est intéressante dans le livre de Kraut, dont je fais un peu de publicité là auprès de vous, un aspect intéressant c'est que chez Kraut, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas les concepts évaluatifs, c'est pas quelqu'un qui veut prioriser les concepts déontiques ou bien le concept d'une raison. Ça, c'est un autre concept en éthique qui a pris beaucoup d'importance récemment. Chez Kraut, c'est pas ça. C'est pas qu'il aime pas les concepts évaluatifs. C'est plutôt que dans le domaine des concepts évaluatifs, il a son préféré, good for. Donc, ça rajoute un autre élément à ce débat. Comme je disais, je trouve que la littérature est très... en transition actuellement sur ces questions. Je crois que ce sont des questions importantes. Les concepts sont quand même des outils. Si on choisit bien nos outils, on va mieux penser. Merci.